Il, approché par Manu Chao, le couple sort l'album Un dimanche à Bamako. 2008, Welcome to Mali. 2012, Folie là. 2017, La confusion. L'année dernière, Amadou s'était produit avec Mariam lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris pour interpréter une version de la chanson de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes ne pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'air.
Amadou Bakayoko, qui nous a donc quitté à l'âge de 70 ans. RFI y revient évidemment tout au long de cette matinée. Restez à l'écoute.
Afrique Matin sur RFI.
En attendant, 4h42 en temps universel, le retour de l'actualité internationale dans un peu plus de 13 minutes. Mais avant cela, le sort de plus en plus difficile des subsahariens en Tunisie, une précarisation croissante depuis que les autorités ont durci le ton en 2023. Ce sera notre reportage à Tunis. Un combat de 20 ans au Gabon. On reçoit ce matin le sénateur Jean-Elvis Ebangondo. À une semaine de la présidentielle, il souhaite interpeller les candidats sur la question des crimes rituels commis sur les enfants. Son propre fils a été tué en 2005. Il préside aujourd'hui une association pour lutter contre ce phénomène. Un nouveau rendez-vous à cette heure-ci, le samedi. On retrouvera désormais la chronique média d'Amaury de Rochegonde. Mais d'abord, c'est l'heure des sports. Comme tous les jours, ça bouge pas. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne, hein. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Du foot féminin pour démarrer votre journal avec la grande première de Reynald Pedros à la tête de la Côte d'Ivoire.
Un simple match amical pour se faire les dents. Deux mois après sa nomination à la tête des éléphantes et sous les ordres du français, les Ivoiriennes ont dominé le Kenya 2-0 à Abidjan. Début signé Grace Ndri et Mariam Diakité sous les yeux de Molamine Sissavani.
Côte d'Ivoire 2, Kenya 0.
Une victoire pour commencer après deux ans sans un seul match. La première mi-temps a été poussive malgré l'ouverture du score à la 9e minute. Les Ivoiriennes ont ensuite fait mieux en seconde période. Pour Reynald Pedros, il y a beaucoup plus de points à améliorer que de points de satisfaction.
C'est notre premier match international et c'est leur premier match depuis deux ans. Donc il faut aussi remettre un peu la machine en route, s'appuyer sur ce match-là, sur la victoire et leur dire qu'on n'a pas été si bon que ça, mais qu'on a quand même concédé très peu d'occasions et on aurait peut-être pu marquer un ou deux buts de plus. Donc il y a de la satisfaction, mais bien sûr qu'il faut qu'on travaille encore et encore.
Du travail pour progresser. Et le peu qui a été fait en deux mois, ajouté au calibre du coach, donne de l'espoir selon Yves Bogbé, journaliste sportif.
On a une nouvelle dynamique qui s'est vue aujourd'hui. On a ressenti une patte de l'entraîneur. Il y a le groupe qui a un peu changé par rapport au groupe qui était présent il y a deux ans. Il y a beaucoup de jeunes joueuses, telles que la première buteuse. On a senti vraiment que les joueuses avaient vraiment envie de prouver ce soir.
Elles devront prouver à nouveau mardi prochain, toujours face aux Kenyans. C'est l'objectif de Reynald Pedros qui va ensuite continuer à travailler au niveau local avant les fenêtres FIFA, avec en point de mire les éliminatoires de la CAN en octobre. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, Antoine, également engagé à la CAN U17.
Et qui est allé chercher un nul, 0-0 face à l'Angola pour la deuxième journée de phase de groupe. Les U17 ivoiriens en ballotage très favorable avec 3 points d'avance au classement sur leur adversaire du soir. Un groupe D dans lequel le Mali a validé son billet pour les quarts de finale avec une victoire 2-0 sur une Centrafrique réduite à 9 dans la poule C. Le Sénégal et la Tunisie se neutralisent 0-0 et permettent à la Gambie de revenir à une longueur après sa victoire 5-1 sur la Somalie.
En basket, le début ce samedi de la première des 3 phases de groupe de la Basketball Africa League.
La conférence Kalahari qui va se disputer à Rabat jusqu'au 13 avril. 4 équipes engagées, 12 matchs au programme. Ce samedi, en ouverture, le Stade Malien affronte les Rivers Hoopers du Nigeria à 15h en temps universel. Une conférence Kalahari dans laquelle figurent également les Égyptiens d'Alitiad et les Marocains du FUS de Rabat.
Un mot d'athlétisme, Antoine, pour finir.
Avec le Grand Slam Track à Kingston en Jamaïque, la première manche de cette toute nouvelle compétition qui va révolutionner l'athlétisme. Plusieurs Africains engagés sur les longues distances. En attendant leur confrontation sur 5000 mètres, l'Éthiopienne Tai Eshgayehu a pris les commandes du 3000 en devançant sur le fil la Kenyane Agnes Chebet Ngetich. Dans les sprints longs où les athlètes s'affrontent sur 400 et 200 mètres, Colin Kebinachipi, le Botswanais, a pris la quatrième place du 400 devant le Zambien Muzala Samukonga.
Le journal des sports, Antoine Grenier sur RFI. On vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
En attendant, il est 4h46 en temps universel. Un coup d'œil rapide sur l'actualité internationale et cette guerre commerciale lancée par Donald Trump qui a fait plonger les marchés financiers hier à 6% pour Wall Street à la clôture après une débâcle en Asie et en Europe. La bourse de Paris a dévissé de 4,26%, effaçant ainsi tous ses gains de l'année. L'armée israélienne qui a lancé une nouvelle offensive au sol à Gazaville hier qui a fait au moins 30 morts selon la défense civile. Ces opérations créent une situation extrêmement dangereuse pour les otages à Gaza, avertit le Hamas. Et puis un bombardement russe dans un quartier d'habitation de la ville ukrainienne de Kryvyi Rih qui a fait au moins 18 morts, une soixantaine de blessés, dont de nombreux enfants selon les autorités ukrainiennes. On en a beaucoup parlé sur RFI depuis 2 ans maintenant. La situation de plus en plus compliquée des exilés subsahariens en Tunisie. Les autorités, sous l'impulsion du président Kais Saied, ont serré la vis depuis 2023, rendant de plus en plus précaire sur place la vie quotidienne pour de nombreux migrants. À Tunis, notamment, les ONG s'en alertent. Mais celles qui viennent en aide à ces personnes dans le besoin sont désormais hors la loi. C'est notre reportage du jour. Il est signé Lilia Blaise.
À Tunis, dans un quartier de la banlieue nord, plusieurs migrants subsahariens attendent sur le trottoir au bord de la route. Selon les besoins en petit boulot, les clients viennent à ce rond-point et embauchent à la journée les premiers à se présenter, comme l'explique Samy, un migrant malien de 16 ans.
On attend du travail ici, travail des chantiers, travail des jardins.
Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là depuis quelle heure ?
Depuis à 6 heures.
6 heures du matin ?
Ouais.
Il est 10 heures et Samy attend encore. Ce phénomène est visible dans plusieurs endroits de la capitale, les migrants n'étant plus embauchés dans les emplois stables à cause des contrôles à répétition des autorités. Une situation de plus en plus difficile pour Abdallah, 25 ans et ivoirien.
Il y a beaucoup de problèmes parce que pour aller travailler même, ça fait peur entièrement.
Oui.
Parce qu'on n'a pas de papier, il y a la police épée, t'as arrêté pour en prison.
Samy, 27 ans, migrant camerounais, est venu il y a 7 mois à Tunis pensant trouver du travail dans son domaine, la réparation d'objets électroniques. Il se retrouve à faire le berbécha, le collecteur de plastique. Il fouille dans les poubelles pour trouver des bouteilles à vendre ensuite à des dépôts de recyclage.
Quand je suis arrivé et que je suis allé dans des magasins d'électronique pour du travail, on m'a dit que ce n'était pas possible de m'embaucher. Du coup, je ne pouvais pas rien faire et rester à la maison. Je devais payer le loyer, ma nourriture. Alors je suis allé dans la rue et j'ai commencé ce travail.
Pour le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne, la précarité des migrants est de plus en plus visible dans l'espace public. Elle a atteint un niveau alarmant, selon Ramdan Ben Amor, porte-parole de l'ONG.
Maintenant, c'est remarquable le nombre des mamans avec accompagnés de leurs enfants sur l'espace public, parce que ces mamans-là n'ont pas la possibilité ni de travailler et ils sont obligés à sortir dans l'espace public pour chercher quelques moyens à vivre ou bien d'aide de la part des gens.
Il attribue cette mendicité de plus en plus visible à la criminalisation actuelle par les autorités des organisations de la société civile qui viennent en aide aux migrants. Très peu d'ONG peuvent encore travailler sur le terrain. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Un reportage sur le quotidien très compliqué des exilés subsahariens en Tunisie à retrouver, bien sûr, sur Internet. Il se bat pour une cause qui lui est chère au Gabon. On reçoit ce matin sur RFI le sénateur Jean-Elvis Ebang Ondo qui préside également l'association de lutte contre les crimes rituels dans son pays. Une mobilisation qui remonte pour lui à 20 ans en arrière en 2005 lorsqu'il fut touché dans sa chair avec la perte de son fils dans des conditions atroces. Tous les ans, une centaine d'enfants sont ainsi victimes de ces crimes rituels au Gabon. Alors, en amont de la présidentielle du 12 avril, Jean-Elvis Ebang Ondo souhaite interpeller les 8 candidats. À Libreville, il est au micro de Christophe Boisbouvier.
Monsieur le sénateur Jean-Elvis Ebang Ondo, bonjour.
Bonjour monsieur.
Votre combat a commencé ce terrible jour de 2005 où le corps mutilé de votre enfant a été retrouvé sur le bord de mer à Libreville. Et finalement, votre voix a fini par être entendue par les Gabonais. C'était en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Que s'est-il passé? J'ai perdu mon enfant et je me suis engagé à mener un combat humanitaire, c'est-à-dire défendre les vies humaines, le respect de la dignité humaine.
Votre enfant qui avait 12 ans.
Mon enfant était assassiné, j'étais au bord de mer et jusqu'à présent, le commanditaire n'a jamais été retrouvé et le dossier a été classé sans suite.
Et en 2020, 15 ans plus tard, quelque chose a quand même bougé dans votre pays.
Justement, à force de travailler, les autorités ont pris ce dossier au sérieux. Nous avons modifié notre code pénal. On a inséré le thème crime avec prélèvement d'organes dans notre code pénal du mois de juin 2020.
Ce qui a permis aux magistrats gabonais de poursuivre les auteurs de ces crimes rituels, c'est ça?
Oui, un haut magistrat, M. Eddy Minan, il a publié un livre et à d'autres qui arrivent maintenant à arrêter les bourreaux. Donc, je n'ai pas prêché dans le désert et je suis très content parce que le problème est pris au sérieux au niveau de la magistrature suprême actuellement.
Donc, l'auteur de l'assassinat de votre enfant n'a jamais été retrouvé. En revanche, d'autres criminels ont été arrêtés et jugés?
Certains, mais je vais parler des bourreaux et non les commanditaires. Le seul commanditaire qui a été arrêté, c'était un sénateur de Kango. Je crois que c'était dans les années 2006. Actuellement, il n'est plus dans notre monde. Il est parti, il est mort.
Mais plusieurs bourreaux, eux, ont été arrêtés.
Les bourreaux sont toujours arrêtés, mais étant donné que le combat que je mène actuellement, c'est que au niveau de notre code pénal, on insère le terme crime rituel. C'est le mot qui passe le plus au niveau du peuple gabonais. Il faut mobiliser la classe religieuse, les étudiants et tout le monde afin que nous parlions le même langage. Le terme crime rituel est reconnu au niveau des Nations Unies.
Est-ce que les confessions religieuses, est-ce que les catholiques, les musulmans, les protestants commencent à se mobiliser contre ce fléau?
Oui, depuis 2013, nous avons organisé une grande marche pacifique. Nous avons remis au chef de l'État, à l'époque, un mémorandum qui a été signé par toutes ces confessions religieuses, catholiques, protestants, musulmans, sans oublier les églises de réveil. Nous tous, nous avons décrété même la journée du 28 décembre, journée à la mémoire de toutes les personnes, disons les enfants, victimes de ce fléau qui dérange notre pays.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de crimes rituels qu'il y a 20 ans?
Au niveau des statistiques, ça baisse. Mais le fond du problème actuel, c'est qu'on nous parle de l'inclusivité parce qu'avec les anciens mélangés aux nouveaux, c'est un peu le désordre. Et voilà pourquoi nous assistons encore aux enlèvements, aux disparitions forcées et les crimes rituels peuvent revenir.
Est-ce à dire que vous craignez que les caciques de l'ancien régime reviennent au pouvoir à la faveur de cette campagne électorale?
C'est pas moi, mais l'ensemble des Gabonais. Samedi passé, il y a eu une manifestation. La population n'est pas pour le placement des anciens dignitaires du régime pour les campagnes électorales.
Et là, vous parlez du retour des caciques de l'ancien parti au pouvoir.
Justement, les Gabonais ne voient pas ça d'un bon œil parce qu'on dit qu'on en a déjà marre.
Alors, il y a 8 candidats pour la présidentielle du 12 avril. Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats pendant la campagne?
Ce que j'attends de ces candidats, c'est vraiment le changement. Les Gabonais veulent le changement. Le changement au niveau des mentalités, le changement au niveau des structures qui seront mises en place, le changement à tous les niveaux. Donc, j'aimerais voir parmi tous les candidats comme priorité dans leur projet de société le respect des droits de l'homme.
Et sur la question précise des crimes rituels, qu'est-ce que vous attendez de ces candidats?
La libération de la justice, premier point. La lutte contre l'impunité, deuxième point. Une justice pour tous.
Monsieur le sénateur Jean-Elvis Ebang-Ondou, je vous remercie.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec Jean-Elvis Ebang-Ondou, sénateur président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon. 6h55 à Paris, avant de retrouver RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem. Un rendez-vous qu'on retrouvera à présent le samedi matin à 7h. La chronique média pour prendre le pouls médiatique chaque semaine. Et c'est avec vous, Amaury de Rochegonde. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin du fait divers qui fait florès en France, de plus en plus présent dans les médias. Il semble rencontrer l'intérêt des Français, c'est en tout cas ce qui ressort d'une étude présentée aux Assises du journalisme de Tours.
Oui, un sondage Via Voice paru mi-mars à l'occasion de ces Assises du journalisme l'a montré. Près de 7 Français sur 10 se disent intéressés par le fait divers et 62% estiment qu'il est parfois nécessaire que les politiques s'en saisissent. Alors les motivations sont plus ou moins avouées, la plupart considèrent que c'est un bon moyen de s'intéresser à l'actualité judiciaire et sécuritaire, mais il peut y avoir des récupérations politiques, comme on l'a vu l'an dernier à Crépol, dans la Drôme, où une rixe qui a fait un mort a alimenté la thèse extrajudiciaire d'un racisme anti-blanc. Depuis l'émission à succès « Faites entrer l'accusé », passée de France 2 à RMC Story, il peut y avoir une forme de voyeurisme pour des détails morbides dans certains traitements d'affaires criminelles. Patricia Touranchot, une journaliste chevronnée qui vient de signer une série documentaire sur l'affaire Grégory pour Netflix, se défend par exemple d'avoir recours à des reconstitutions en refusant de montrer un enfant ligoté dans une camionnette. Mais elle n'hésite pas à livrer des évocations comme de vrais corbeaux, allégories de ceux qui persécutaient les parents de Grégory Villemain, l'enfant disparu il y a 40 ans dans les Vosges.
Et Amaury, comment peut s'expliquer un tel attrait pour le fait divers ?
D'après cette journaliste, car les gens s'identifient à des victimes et se rassurent en se disant que c'est loin de chez eux ou de leur vie. Vincent Ventighem de BFM TV explique même que cela permet de se dire que ça va bien car il y a pire ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que le genre fait florès, affaires sensibles, l'émission de France Inter trouve une extension sur France 2, les mini-séries Laetitia ou Sambre de Jean-Xavier de Lestrade sur des affaires réelles ont été des cartons d'audience et les plateformes comme Netflix s'y mettent abondamment avec des séries comme Le Serpent ou un documentaire sur l'affaire Canta, le chanteur de Noir Désir qui a tué Marie Trintignant.
Et l'on parle de plus en plus justement de féminicide, Amaury.
Oui, c'est un terme que l'on entend surtout en France, où l'on tente à bannir le terme de crime passionnel qui trouvait une certaine indulgence dans les jurys populaires. C'est parfois tout à fait évident, comme dans l'affaire Shaïna Daoud, brûlée vive par son ex-compagnon, mais on retrouve aussi de grandes affaires qui sont susceptibles de s'inscrire dans le temps par le mystère qu'elles entretiennent et leur dimension sociétale ou politique. C'est le cas de la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. En filigrane, il y a une société patriarcale finissante et sa violence plus ou moins contenue.
La chronique média d'Amaury de Rochegonde, tous les samedis, désormais à 7h06 sur RFI. Merci à Thierry Le Saint qui a réalisé cette session d'information. Merci à Pierre Pinto qui était la rédaction en chef. Et merci à vous surtout pour votre fidélité. On salue d'ailleurs ce matin Alif et Mustapha Boukar qui nous écoutent depuis Liwa au Tchad. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. On l'en remercie, ça nous fait toujours très plaisir. Restez avec nous dans une minute, RFI Matin.
L'épopée des musiques noires.
Le vibraphoniste et compositeur américain Roy Ayers nous a quittés le 4 mars dernier à l'âge de 84 ans. Il a su jouer tout au long de sa carrière avec tous les styles, du jazz au hip-hop. Très attaché à la source africaine de son univers sonore, il a été marqué par sa collaboration avec Fela Kuti. Pour lui rendre hommage, Joe Farmer nous propose de redécouvrir le témoignage de ce brillant instrumentiste dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h31.
RFI. Religion du monde, Véronique Guémard.
Les musiques sacrées du monde invitent au voyage intérieur. Nous vous proposons ce dimanche de voyager à travers le monde en écoutant ces musiques sacrées où se croisent spiritualité, religion, culture et tradition avec notre grand invité Gérard Kurtjian.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.